VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour Science et Santé avec Camille Gros-Didier. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Du nouveau sur le double attentat suicide qui a fait 24 morts hier à N'Djamena, la capitale du Tchad. Le parquet annonce que plusieurs suspects ont été arrêtés, mais les autorités, estimant que ces attaques ont nécessité une préparation minutieuse, continuent de chercher les commanditaires et les complices. La capitale tchadienne, N'Djamena, était donc quadrillée par la police et l'armée ce mardi. Jacques Aristide.
Un des blessés des attaques contre le commissariat central et l'école de police est décédé hier, portant le bilan à 24 morts. Selon le gouvernement tchadien, 4 terroristes ont également été tués. Policiers et soldats étaient déployés en masse ce matin dans la capitale. D'après l'AFP, ils fouillaient systématiquement les véhicules et leurs occupants. Des checkpoints interdisaient également la zone du commissariat central et la voie passant devant le palais présidentiel. Dans le cadre de ces contrôles de sécurité, N'Djamena avait annoncé dès hier que la circulation des véhicules à vitres fumées est formellement interdite. Le gouvernement a également appelé la population, je cite, « à garder tout son calme et sa sérénité légendaire, car la situation est entièrement sous contrôle. Ces attaques qui visent à créer une psychose ne sauraient émousser la détermination et l'engagement du Tchad à combattre le terrorisme », fin de citation. Les autorités ont rapidement accusé les islamistes nigérians de Boko Haram d'être les auteurs de ce double attentat. Depuis Alger, où il se trouvait en visite officielle, le président français François Hollande a déclaré que Boko Haram devra rendre compte de cette nouvelle horreur humaine.
Lutte contre Boko Haram, les États-Unis vont contribuer à hauteur de 5 millions de dollars à la force régionale de lutte composée du Nigeria, du Niger, du Tchad, du Bénin et du Cameroun. Les précisions de Claire Morin-Gigourd.
Par la voix de la secrétaire adjointe du Bureau des Affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, les États-Unis ont fait part de leur inquiétude face à la menace régionale que constituait le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Au Nigeria, alors que le centre de commandement de la lutte contre la secte islamiste a été transféré à Maïdougouri, le président Muhammadu Buhari, au micro de nos confrères du service Haoussa, est revenu sur l'importance d'un commandement de la force régionale nigérian.
Le Nigeria est au centre du champ de bataille, même si certains pays touchés par ces terroristes ont dû s'engager et se battre pour mieux sécuriser le pays. C'est un problème qui reste nigérian. C'est pourquoi, une semaine après ma prise de fonction, je suis allé les remercier et les écouter au sujet de meilleurs moyens pour lutter contre le terrorisme au Nigeria et dans les régions du Nord-Est en particulier.
Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari.
Présidentielle rwandaise, le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, s'est prononcé pour une réforme de la Constitution, indique le journal pro-gouvernemental New Times, une mesure qui ouvrirait donc la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017. En République démocratique du Congo, les députés ont crié à la fraude et renvoyé au gouvernement un projet de loi sur la répartition des sièges des circonscriptions pour incohérence des chiffres avec la réalité sur le terrain. Eddy Sango.
Les membres de l'Assemblée nationale ont refusé d'examiner dans les détails les projets de loi et ont dénoncé les intentions de fraude de la part du gouvernement. Ils ont relevé des incohérences entre les chiffres et la réalité sur le terrain. Les députés ont entre autres relevé plusieurs groupements et secteurs inexistants ou faisant l'objet des contentieux majeurs que le gouvernement reprend dans le projet de loi. Lesquels projets de loi reprend en effet des secteurs qui n'ont ni groupement ni village et des groupements qui n'avaient aucun électeur en 2011 mais auxquels les gouvernements attribuent des sièges. Pour les élus, les projets sont en déphasage avec les recensements électoraux de 2004 et l'actualisation faite en 2011. La défense de ces projets de loi samedi par les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, Évariste Boshab, n'a pas suffi pour convaincre les députés. Les projets ont été déclarés irrécevables et devraient être améliorés avant les élections provinciales, municipales, urbaines et locales qui devront avoir lieu le 25 octobre.
Et toujours au sujet de la RDC, le procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda, accusé de crimes contre l'humanité, s'ouvrira devant la Cour pénale internationale le 7 juillet à La Haye. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la CPI. Présidentielle ivoirienne, le président Alassane Ouattara promet des élections apaisées, démocratiques et ouvertes en octobre. D'après l'AFP, il s'est ainsi exprimé à l'issue d'un entretien avec son homologue français, François Hollande, à Paris. L'opposition accuse pourtant le pouvoir de préparer des fraudes massives sur les listes électorales. Affaire Thomas Sankara, la veuve de l'ancien président burkinabé a demandé à des députés français d'ouvrir une enquête parlementaire pour élucider le rôle de la France dans la mort de son mari. Elle entend ainsi obtenir un accès aux archives de la France. Des soldats somaliens ont été tués aujourd'hui près de Mogadiscio dans l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule, selon un responsable sécuritaire et des témoins. Sachez aussi que la justice égyptienne a confirmé aujourd'hui la peine de mort prononcée contre l'ex-président Mohamed Morsi dans un procès pour violence et évasion de prison durant la révolte de 2011. Un verdict qui vient confirmer la volonté du pouvoir d'éradiquer l'opposition islamiste.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, les rebelles houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont annoncé qu'ils refusaient tout dialogue avec le gouvernement en exil en Arabie Saoudite à leur arrivée aujourd'hui à Genève. Ce n'est pas là le seul obstacle qui se dresse devant les médiateurs onusiens, comme nous l'explique Salwa Jafari.
En tant que puissance politique à l'intérieur du Yémen, nous avons convenu que l'actuel chef du gouvernement ne fait pas partie du dialogue. C'est à nous de choisir qui mettre à la tête du gouvernement.
Le message est clair, les Houthis ne veulent ni du président Hadi, ni de son gouvernement en exil autour de la table des négociations. Ils réclament néanmoins un face-à-face avec Riyad, à la tête de la coalition arabe dont les frappes visent quotidiennement leur position. Et pour compliquer les choses, le gouvernement yéménite, lui, refuse de parlementer, sauf pour discuter d'une résolution du Conseil de sécurité qui ordonnerait le retrait des Houthis de tout le territoire. Les positions des deux parties sont tellement éloignées que les Nations Unies ont opté pour des consultations séparées avec chaque délégation dans un premier temps. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, le Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed, a déjà rencontré hier la délégation du gouvernement en exil et devrait se réunir aujourd'hui avec les représentants des rebelles. Les pourparlers sous l'égide de l'ONU visent à parvenir, sinon à un accord, du moins à une trêve dans les combats qui ont fait depuis mai plus de 2600 morts.
Qassem Al-Rimi est le nouveau chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il est considéré comme l'un des piliers du groupe qui a réussi à recruter une génération entière de combattants dédiés à la cause du djihad. Il succède donc à Nasser Al-Waishi, tué la semaine dernière dans une attaque de drones américains au Yémen. Les combattants kurdes et les rebelles syriens assurent aujourd'hui le contrôle total de Tal Abyad après avoir chassé les forces du groupe État islamique dans cette ville du nord syrien, près de la frontière turque. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une importante route de ravitaillement entre la ville et Raqqa, le QG des djihadistes, a été coupée avec la chute de Tal Abyad. Et le Premier ministre irakien Haider Al-Abadi effectuera demain une visite d'une journée en Iran pour discuter de la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Il doit notamment examiner avec le guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, et d'autres dirigeants iraniens, les efforts de la communauté internationale visant à combattre les bandes terroristes. C'est ce qu'a précisé un communiqué publié sur le site du Premier ministre. Puissance chiite régionale, l'Iran s'est engagé dans la lutte contre le groupe État islamique qui contrôle de larges pans de territoire en Syrie et en Irak. Téhéran a envoyé des conseillers militaires et fourni un soutien financier et militaire au gouvernement syrien et irakien, tout en affirmant ne pas avoir déployé de troupes au sol dans ces pays. Et les rebelles talibans afghans ont mis en garde aujourd'hui le chef de l'organisation État islamique contre toute tentative d'implantation dans leur pays, après des accrochages dans l'Est entre leurs hommes et des combattants se réclamant de ce groupe djihadiste. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec et je cède la place à Camille Grosdidier qui vous propose Carrefour Sciences et Santé.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.